Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 575 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous accueillir, j'espère que vous allez bien. Et à mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Comment ça va Raphaël?
Eh bien écoute, ça va après un joli week-end de wildcard.
Je ne me rappelle que de peu de choses de ce week-end de Wildcard, mais je te crois sur parole. Oui, il s'est passé plein de choses. Non, mais en vrai, c'était plein de beaux matchs. Je regrette d'avoir eu une grippe de l'enfer qui m'a empêché d'en apprécier beaucoup, mais c'était plutôt pas mal. Bon, Raphaël, on a une émission, mais ultra simple. D'habitude, les mercredis, c'est un peu plus...
Dense.
Dense, voilà, je cherchais le mot que ça. Là, on a une émission ultra simple, un seul match... Le match et l'avenir de Tom Brady, je pense que voilà, on va répartir en deux morceaux comme ça. Même pas de plein de jingles ou quoi, parce qu'on sait même pas combien de temps ça va durer. On va commencer tout de suite avec les Buccaneers 14 et les Cowboys 31. Pas de miracle du côté de Tampa. Raphaël, est-ce que j'avais tort d'attendre quelque chose de cette équipe encore et encore? J'avais l'impression d'être un peu seul à la fin. Je crois que sur les pronostics, on n'était que deux à donner les Buccaneers sur ce match, si je ne dis pas de bêtises. Bon, il n'y a pas eu de suspense. Et j'ai l'impression qu'en effet, il vous a donné raison et il m'a donné tort de chercher quelque chose dans cette équipe.
T'étais pas seul, hein. J'ai vu un peu avant quand même que le match arrive, la presse notamment aussi américaine faire un peu monter la sauce autour de Tom Brady, l'expérience en playoff et aussi un peu les misères de Dallas, on va dire, hein, ces dernières années, voire même la décennie en playoff. Il y avait un peu tout ça qui se mélangeait pour donner l'idée que Tampa pouvait l'emporter. Et en vrai, ça aurait pu, hein. On a quand même vu des Dolphins faire la vie dure aux Bills, on a vu des Ravens faire la vie dure aux Bengals, donc pourquoi pas. Maintenant, au final, il n'y a pas vraiment de surprise parce que c'est les Buccaneers qu'on a vu toute la saison. C'est une équipe moyenne, tout simplement, qui est arrivée en playoff parce que sa division était faible, qui, dans, à mon avis, à peu près n'importe quelle autre division de la Ligue ne serait pas passée en playoff. Et voilà, et cette saison ils n'ont jamais eu plus de 2 victoires à la suite. Cette saison ils ont dépassé les 24 points que 2 fois, et c'était un peu illusoire effectivement à mon sens de croire que ok, sur les playoffs tout allait changer parce que c'est les playoffs et parce que tous les défauts de l'équipe allaient disparaître d'un coup parce qu'on entrait en playoffs. Et je pense qu'il y avait aussi peut-être on s'attendait à peut-être que Dallas se plante, mais Dallas était une équipe bien plus complète cette saison à tous les niveaux, à tous les égards, et le résultat final n'est pas surprenant en vrai. Au-delà du facteur surprise qui aurait pu intervenir, le résultat est logique en fait.
Non mais c'est là où je voulais en venir, et je l'ai noté dans le résumé un petit peu, c'est que... Il n'y a pas eu d'étincelle et moi je me berçais un peu d'illusions avec ce « oui mais il y a l'effectif, oui mais il y a Tom Brady, il y a un moment où il va y avoir une étincelle » et tu le dis très bien, ils ont été lundi soir l'équipe qu'ils étaient toute la saison. Voilà, il n'y a pas eu de grosses surprises de ce côté-là. Après, on va quand même faire honneur au vainqueur. On va commencer par Dallas. Dak Prescott, 25 sur 33, 305 yards, 4 touchdowns, aucune interception. C'est quand même la star du soir, j'ai envie de dire. Raphaël, on a l'impression qu'il a levé plein de doutes.
Ouais, c'est la star du soir parce qu'effectivement, beaucoup... avait un peu en tête ces quelques fumbles cette saison, hein. Il y a eu, enfin, fumble, pardon, perte de balle surtout, j'ai envie de dire, que ce soit interception ou fumble, avait ça en tête, avec dans l'idée que cette saison, Dak Prescott, il a eu des matchs où il perdait beaucoup de ballons et que ça avait compliqué la vie de Dallas. Là, pour le coup, quand Dak Prescott est comme ça, quand il a le temps dans sa poche et qu'il peut se permettre de disséquer les défenses adverses avec les nombreuses armes qu'il a, bah, c'est assez redoutable et on voit que cette attaque elle est extrêmement équilibrée, t'as quasiment autant de passes que de courses et du coup Dak Prescott était vraiment dans un fauteuil, l'utilisation des tight ends a été particulièrement intéressante, donc oui il fait lever des doutes parce qu'on voit que il a le talent quand il fait pas ses petites erreurs, il a largement le talent pour emmener cette équipe au Super Bowl et lui faire gagner un Super Bowl. Enfin, quand on voit les quarterbacks qui ont été capables de faire gagner des Super Bowls à leur équipe, moi je vois pas en quoi Dak Prescott, sur son talent, n'a pas les armes qu'il faut quand il faut. Donc maintenant, tout l'objectif, j'ai envie de dire, pour lui et Kellen Moore, son coordinateur offensif, c'est vraiment de minimiser la prise de risque ou en tout cas les erreurs possibles. Là, ça a été fait sur ce match, maintenant, il faut continuer. Mais je te rejoins sur le côté, ça a été la star du soir. 4 touchdowns lancés, hein, à la course, que demander de plus, quoi.
Je suis content que tu aies donné son nom, Kellen Moore, le coordinateur offensif. Tu l'as aussi mentionné, une attaque très équilibrée, 35 courses, 33 passes, des drives longs, des drives courts quand il faut. Kellen Moore aussi, quand même, est un des grands artisans de cette victoire.
C'est un des grands artisans. Ça fait un moment, hein, que sa cote est en train de monter quand même en tant que coordinateur offensif. Déjà, l'an dernier, il y avait pas mal d'éloges. Bon, la saison avait peut-être pas été ce que Dallas attendait, mais malgré tout, les éloges étaient là. Et cette saison, progressivement, je trouve qu'il a confirmé cette bonne gestion du duo Pollard Elliott au sol, cette capacité à quand même faire émerger des mecs comme Noah Brown, Dalton Schultz, hein, non plus, qui n'était pas le tight end le plus attendu, j'ai envie de dire, en termes de production depuis deux saisons. Donc je trouve que globalement, alors quelquefois il y a des ratés, mais globalement c'est un vrai bon coordinateur offensif et je serais étonné qu'il soit encore là l'an prochain, sauf si les postes viennent à se remplir avant l'élimination des Cowboys, mais je serais étonné.
C'est vrai que Schultz, c'est un choix du quatrième tour en 2018. Il avait 12 réceptions en 2018, une seule en 2019, en 16 matchs, hein, en 2019 en plus. Et après, en effet, il monte à 63, 78, 57. Donc, c'est un joueur qui est monté en puissance, hein, du côté de Dallas.
Ouais, et puis il y a des bonnes drafts, hein, du côté de Dallas. C'est pas tout le temps ce qu'on met le plus en avant quand on parle des Cowboys, mais quand même, ces dernières années, il y a beaucoup de bons choix à la draft. Hein. CeeDee Lamb, Parsons, Smith sur la ligne offensive, qui est devenu un super joueur et qui a quasiment remplacé Tyron Smith, ils l'ont remplacé par Tyler Smith, et merci. C'est bon, la ligue, enfin, le poste est comblé pour les 10 prochaines années, on ne s'inquiète pas.
Je vais lui donner le même numéro pour que les fans qui achètent le maillot, tu vois, et juste
vrai,
le maillot du left tackle, quoi, tu vois.
Ouais. C'est vrai que ça serait plus sympa. Mais en tout cas, voilà, ils draftent bien, en tout cas, notamment depuis plusieurs saisons, et ce coaching staff arrive à utiliser globalement bien les joueurs draftés, donc c'est Kellen Moore fait partie, ouais, des grands artisans, assurément.
Du côté de la défense, ils prennent pas de points avant de mener 24-0. Les derniers sont plutôt dans le garbage time. Donc là aussi, le contrat est rempli pour une défense qui semblait avoir donné quelques petits signes de faiblesse sur la fin d'année. Ils t'ont rassuré ?
Ouais, ils m'ont rassuré, j'ai envie de dire, un peu partout. On a Micah Parsons qu'on attendait de voir en playoff qui a été monstrueux, assurément. Enfin, qui a mis la pression de toutes parts à Tom Brady et qui a notamment réussi à mettre la pression depuis le centre de la ligne. Et on sait aussi depuis l'intérieur que des fois c'est pas ce que Tom Brady préfère, hein, la pression qui vient de l'intérieur, et on voyait certaines actions où Micah Parsons arrivait comme une balle du deuxième rideau plein intérieur, et voilà. Donc il y a eu cette grosse et belle performance du pass rush de Dallas, mais j'ai trouvé que même les linebackers et les cornerbacks ont été très très bons sur la couverture. De mémoire, il y a 10 ou 11 passes aériennes déviées, cassé, comme on dit, pour traduire un anglicisme,
ouais,
pas
12,
très joli,
ouais.
Voilà. Mais ils ont été présents de A à Z, et effectivement il y a ce petit relâchement, mais encore une fois parce qu'ils décident de jouer un peu plus soft en deuxième mi-temps avec l'avance, Mais la prestation défensive est extrêmement rassurante et ouais, extrêmement rassurante.
Bon, leur seul problème, c'est leur kicker qui a manqué 4 extra points. Alors, il a été bon pendant la saison, donc on attend oui. et on voit si ça ira mieux la semaine prochaine, quoi.
C'est ça. Visiblement, Dallas. Enfin, c'était surprenant hein, vu la saison de Brett Maher. On s'attendait pas à ça et même ses coéquipiers, à un moment, on voyait, ils savaient plus quoi lui dire après le troisième extra point raté, le quatrième. Enfin, les gars, savaient plus trop. On a vu que ça a énervé Dak Prescott aussi sur le banc et je peux comprendre parce que. 4 points mis de côté comme ça, on sait jamais, ça peut quand même te coûter quelque chose dans un match plus serré. Donc, mais ça peut être intéressant hein, de voir ce qui se passe la semaine prochaine. S'il rate le premier coup de pied, qu'est-ce que tu fais ?
C'est vraiment un poste qui veut rien dire. Le mec est à 29 sur 32 sur les field goals en saison régulière, 9 sur 9 entre 20 et 29 yards. 5 sur 5 entre 30 et 39 yards, 6 sur 7 entre 40 et 49 yards, 9 sur 11 à plus de 50 yards. Donc voilà, en ouais, plus, c'est plutôt ouais. régulier. Et sur les extra points, il est à 50 sur 53 au cours de la saison régulière. Donc là, il a raté plus d'extra points en un match que sur les 53 qu'il avait tenté en saison régulière.
Ouais,
ça n'a pas
mais...
de sens.
Ouais, ouais, là, c'était un blocage. De toute façon, tu voyais que le 3ème, le 4ème, c'était vraiment le blocage psychologique après les deux premiers ratés. Mais oui, ils vont devoir faire attention à ça parce que ça reste un facteur de jeu. Après, du coup, il y a un moment, ça a aussi poussé Dallas à aller chercher une quatrième tentative à la passe plutôt que tenter un field goal. Réussi, donc écoute, pourquoi pas.
Tu vois, comme quoi, Mac McCarthy, il suffit que son kicker rate 4 fois et il devient un peu audacieux.
Mais en tout cas, mais même Mike McCarthy, on aime bien bloquer, mais le coaching aussi, les décisions étaient bonnes, hein, globalement, sur ce match, il n'y a pas grand chose à lui contester. Donc, c'est une vraie belle équipe de Dallas. Je ne veux pas empiéter sur votre preview de jeudi.
Je sens que tu es chaud sur Dallas.
Je trouve qu'ils ont une belle tête de contenders quand même.
Ok. Mike McCarthy, c'est vrai qu'on est, souvent dur avec lui, mais. Pour moi, c'est un peu le Alex Smith du coaching, c'est-à-dire que il est propre, quoi. On l'a souvent reproché de pas être exceptionnel ou de pas avoir une touche de génie en plus. Et c'est vrai qu'il a peut-être pas la touche de génie de certains, mais voilà, bon, il, avec une bonne équipe qui tourne bien, il a quand même gagné un titre avec Green Bay. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, bon. En tout cas, ça passe tranquillement sur ce coup-là. On revient aux Buccaneers, donc là, on est sur en effet de la faillite offensive quand même. Alors, tu le disais, bonne défense de Dallas, mais punt, interception, punt et punt. Ça, c'est leur début de match avant de marquer un touchdown. Et je crois qu'à ce moment-là, du coup, ils se retrouvent à 24-0. Hein. Tom Brady, 35 sur 66, 351 yards de touchdown, d'une interception. Alors, on parlait d'attaque équilibrée pour Dallas. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Il y a 12 courses pour 66 passes. Tu m'as dit ce matin, t'as été trop gentil avec lui dans le résumé.
Ouais, j'ai trouvé que dans le résumé du match, c'était un poil gentil parce que je trouve pas qu'il a été abandonné par tout le monde. Je trouve que lui-même s'est un peu abandonné, on va dire ça comme ça. Je cherche une formulation. Bien entendu, encore une fois, le play call de Byron Leftwich a pas été bon et d'ailleurs il prend la porte. Donc c'est pas une il y a pas de fumée sans feu, on va dire ça comme ça. Il y a eu des erreurs. Effectivement, ils ont pas assez couru parce que si tu regardes Rashad White, en fait, il a une moyenne de portée pas
intéressante. Ah oui, 5,9.
Ouais. Et si tu retires sa grande course, enfin sa grosse course de 12 yards, il est quand même sur une moyenne de 4,3 à 4,4. Donc ils auraient pu essayer de courir un peu plus. En fait, ils ont fait, je trouve, notamment, et c'est là où Byron Leftwich, le play caller, a une responsabilité, c'est que ils se sont mis avec le retard à paniquer et à ne faire que des passes. À l'opposé de ce que, par exemple, les Jaguars ont fait contre les Chargers. Clairement, Doug Peterson, il donnait des ballons à Travis Etienne, il allait chercher des gains au sol, et voilà, parce que courir, ça permettait aussi de ne pas concentrer la défense que sur la passe, etc. Donc, le coordinateur offensif a une grande part de responsabilité là-dedans. La ligne offensive n'a pas été la meilleure. Maintenant, je trouve quand même qu'on ne peut pas dédouaner Tom Brady sur certains lancers qui étaient hors de rythme, pas bien dosés, pas bien... Enfin... Voilà, il n'était pas synchro avec ses receveurs et on ne peut pas dire que c'est que la faute des receveurs non plus. Je pense que Tom Brady n'était pas bon sur ce match. Il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été bon. Et à partir du moment où le seul espoir, c'était une espèce de mystique finalement autour de Tom Brady, mais qui n'a pas eu lieu, ça pouvait pas marcher cette saison. Et ce soir, franchement, c'est la copie conforme d'une bonne partie de leur match de la saison en attaque. Hein.
Non, mais c'est ça, hein. On en revient à ça. C'est... Mais alors après, tu disais Byron Leftwich prend la porte, donc c'est vrai qu'on l'a appris là juste avant notre enregistrement, donc leur coordinateur offensif Byron Leftwich sera licencié. Est-ce que c'est pas aussi là que Bruce Arians manque? Parce que mine de rien, c'était pas neutre. C'est-à-dire que l'an dernier, on est resté, et à raison, c'est une super giga méga star, il est 7 fois champion. Mmh. On est resté concentré sur la retraite de Tom Brady. Il part, il revient 40 jours plus tard. Mais ce qu'on a quand même souvent oublié, c'est que il revient 40 jours plus tard et 15 jours après qu'il soit revenu, Bruce Arians prend mystérieusement sa retraite, va dans les bureaux, etc. Et je lisais un papier d'ESPN, notamment cette semaine, qui rappelait qu'il y avait toujours ces rumeurs de Brady, Arians, ça s'entendait moyennement, Brady Leftwich voulait avoir le contrôle de l'attaque, etc. Mmh. Est-ce qu'il ne paye pas aussi ça, aussi peut-être d'avoir voulu avoir cette mainmise sur l'attaque, Brady Leftwich, et en fait, bah, ça n'a jamais marché, quoi.
Peut-être, effectivement, je ne sais pas à quel point ces rumeurs sont fondées ou pas, mais... Ça...
Je veux dire, même sans la rumeur,
oui,
Arians,
le départ d'Arians, oui, clairement. Par contre, ça c'est certain, c'est que Arians... peut-être que des fois, il tempérait certaines décisions de Byron Leftwich, qui était déjà play-caller l'an dernier, ou en tout cas, il avait sans aucun doute une part plus importante de décision là-dedans, et donc ça a été, la marche a peut-être été plus haute que prévu pour Byron Leftwich. Mmh. Donc ouais, il paye sans aucun doute ça, c'est certain, le départ de Bruce Arians, ou en tout cas, je pense qu'il le paye notamment dans l'incapacité à se renouveler en cours de saison et à chercher des solutions pour améliorer ça. Je pense qu'effectivement, avec Bruce Arians, peut-être que le début de saison n'aurait pas été bon offensivement, mais Arians, par son expérience, je pense, aurait réussi à amener des petites touches peut-être pour, à minima, retrouver un bon niveau. Là, tu sens qu'il n'y a jamais eu d'ajustement au cours de saison et bah, ils ont traîné sans boulet toute la saison, en fait, ce manque de solutions.
Et en vrai, d'ailleurs, Todd Bowles en poste de coach, c'est pas non plus une grande réussite. Hein.
Non, c'est pas une grande réussite. Il a aussi sa part de responsabilité parce que là, même de ce qui sort de. Alors, encore une fois, de rumeurs, mais c'est que Todd Bowles voulait virer depuis un petit moment Byron Leftwich et finalement a attendu la fin de saison. Mmh. Mais le truc d'un coach, c'est aussi un moment d'un head coach. C'est de prendre la décision quand il le faut, de bien s'entourer. Et il prend pas cette bonne décision. Donc, il a aussi sa part de responsabilité. C'est certain, et surtout qu'en abandonnant la défense, cette défense, c'est quand même plus tout à fait la même non plus. Hein. Voilà, est-ce que Todd Bowles fait partie de ce genre de coach qui est meilleur coordinateur que head coach? C'est probable, c'est clairement probable.
Franchement, on a beaucoup parlé des Daboll, des Peterson, etc. ces derniers temps. Je pense que Tampa, il y a aussi ça quoi, qui s'est joué cette année. C'est vraiment au niveau du coaching qu'il y a eu un problème.
Ouais.
C'est pas pour être dur avec Bowles, mais comme tu dis, moi je pense que c'est quand même plus un profil de coordinateur. Il a pas non plus... Alors après, c'est le problème hein, quand t'as un super méga star comme Brady, comme Manning à une époque. Tes coachs, des fois, ils sont un peu réduits au rôle de figurant. Si ça clash un peu trop, bon bah on va aller chercher quelqu'un qui s'adapte un peu plus au quarterback. Et voilà, et des fois, ça leur joue des tours... Et je pense que ça leur a joué quand même des tours sur cette année, parce que mine de rien, il y a quand même des armes, quoi. Rashad White, Leonard Fournette, c'est quand même pas horrible. Chris Godwin, Mike Evans, enfin, tu vois, il y a des mecs quand même autour. Hein.
Ouais, c'est certain, tu pouvais faire mieux que ce qui a été fait cette saison. Le nombre de fois où ils ont atteint la mi-temps avec 0 point et les premiers touchdowns, c'était le 3e, 4e quart. Ça a été encore le cas cette semaine. Et comme on l'a dit, hein, la défense de Dallas a été très très bonne, mais normalement tu dois pouvoir faire un peu plus quand même avec cette attaque. Donc ça a été un problème. Après, on parle aussi beaucoup de l'attaque, mais la défense n'est pas au niveau. Hein. Pareil, non, sur toute la saison, les jeunes joueurs qui avaient un peu ébloui, notamment la saison du titre, les Devin White, etc. Enfin, on ne les a pas bien vus cette saison. Ils n'ont pas été au niveau attendu. Winfield, etc. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui a fait que cette saison, ça n'a pas marché.
Non mais comme tu dis, hein, sur la fin de la saison, si tu regardes, là ils en prennent 31 contre les Cowboys, ils en ont pris 30 contre les Falcons, 24 contre les Panthers, 16 contre les Cardinals, bon, heureusement, 34 contre les Bengals, 35 contre les 49ers, ils finissent la saison. Et c'est, en fait ça a presque empiré d'ailleurs, sur le début de saison ils en prenaient un peu moins,
ouais, clairement.
Mais ça a empiré, donc ça a été un gros problème. Bon, encore une fois, on parle pas énormément du scénario du match en lui-même, vous l'avez bien compris, hein, il y avait 24-0 pour Dallas, Tampa Bay a marqué pas mal dans le money time,
le garbage time
qui n'a jamais été un money time, dans le garbage time. Non. Donc voilà, ça a été un match un peu sans bavure et assez net, et tu l'as dit, ça donne une belle impression des Cowboys, mine de rien. On en reparlera pas mal dans la preview, mais ça donne une... Tu voulais rajouter quelque chose quand j'ai dit belle impression des Cowboys?
Non, mais effectivement, équipe très complète en attaque et en défense. Le match-up face aux 49ers, vous en parlerez jeudi, mais ça annonce quand même assez alléchant.
Ouais, Oh, j'allais dire c'est la plus belle affiche. Disons qu'il y a deux très très belles affiches.
Ouais. Il y a deux affiches un peu plus. Ouais.
C'est ça. Les deux du dimanche d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est les deux du dimanche.
Ça, ouais.
Ouais, j'ai commencé à préparer un peu pour l'émission, mais je crois que c'est les deux du dimanche. Donc Bengals Bills, il sera à 21h et le Niners Cowboys, il est à minuit et demi. Donc ouais, c'est les deux superbes matchs du dimanche. On termine, j'allais dire comme tous les ans, avec l'avenir de Tom Brady. Il a 45 ans, donc il aura 46 ans au début de la saison prochaine. Si je ne dis pas de bêtises, il est au mois d'août, souvent c'est pendant le camp d'entraînement, son anniversaire. 23 saisons, 7 titres, 3 fois MVP. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a dit je prends un jour après l'autre. Et petit témoignage d'insider, c'est ah mince, j'ai un trou. Les deux mecs qui commentaient le match,
c'était pas Aikman et.
C'est possible.
Je sais plus, ouais, j'avoue quoi.
Je sais plus, Joe machin, non,
Joe Buck et Troy ouais. Aikman, non?
Ouais, je crois que c'est eux. Parce qu'ils ont souvent. Il y a toujours pour les télé-ricains, hein, quand ils préparent les matchs, souvent ils ont des réunions de préparation avec certains joueurs et coachs de l'équipe pour voir un peu des points dont ils pourraient parler pendant le match, prendre la température, etc. Et donc eux ont témoigné disant quand on a rencontré Brady avant le match, on avait vraiment l'impression qu'il ne savait pas du tout. Voilà. Alors après, c'est, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Il n'allait peut-être pas leur dire non plus. Mais voilà. Qu'est-ce que... Là, on est vraiment dans le Madame Irma, boule de cristal, on n'en sait rien. Le mec a pris sa retraite pendant 40 jours l'an dernier, il est revenu. Donc, inutile de vous dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on,
ouais.
de ce qu'on dit là. Hein. C'est pas des infos, c'est de la prédiction. Donc voilà, Tom Brady va-t-il revenir l'an prochain? Moi, je vais dire, ce qui est fou, c'est que c'est bizarre parce que j'ai moins l'impression qu'il va prendre sa retraite que les deux années d'avant. Quoi.
Ouais, je comprends ce point de vue. Il vient de perdre, il aime pas ça, et en plus il a plus personne à la maison pour l'embêter avec le fait de passer du temps sur les terrains, donc il n'y a pas grand chose qui l'empêche de revenir, c'est certain. Après
c'est un cercle vicieux parce que plus il va vieillir, plus il va perdre, donc le mec va jamais partir.
Ouais, après voilà, je sais pas, est-ce que le départ de Leftwich aussi ça veut dire quelque chose, est-ce que faut le prendre comme un signe de quelque chose ou pas?
Alors je rappelle, j'ai oublié de dire, il est en fin de contrat, donc en plus il est libre.
Ouais, alors pour le coup, je le vois pas revenir à Tampa, tu vois. Je vois pas particulièrement revenir à Tampa maintenant.
Donc,
alors,
les Raiders se sont annoncés comme à fond dessus. Ça, c'est un secret pour personne, visiblement. Tous les médias US l'annoncent. Connexion avec Josh McDaniels, coordinateur offensif des Patriots à l'époque et donc head coach des Raiders. Les Raiders, en plus, visiblement, Derek Carr a déjà annoncé qu'il se barrait. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Autre possibilité, les Titans. Mike Vrabel, ancien coéquipier. Voilà, pas beaucoup de matos au niveau du poste de receveur. Et Ryan Tannehill, je sais pas quelle est la situation.
Mais une ligne offensive, pas beaucoup mieux que celle de Tampa Bay. Hein,
Voilà. Et après, bah, on est dans les outsiders. C'est-à-dire que tu peux revenir aux Patriots si jamais ils pètent un câble et ils veulent plus de Mac Jones. Ou alors, le troll ultime, tu vas chez les Jets.
Ouais, ça serait une sacrée histoire. Ça serait une sacrée histoire. Franchement, je sais pas.
En
je
vrai, t'es les Jets, tu prends Tom Brady aujourd'hui plutôt que Zach Wilson, White et Joe Flacco?
Oui, plutôt que Zach Wilson et machin, oui, si je dois en choisir, oui, si je dois choisir, c'est sûr. Après, sincèrement, si moi je suis une franchise qui est un peu à une étape intermédiaire, je vois le match d'hier, je suis quand même pas certain de vouloir mettre autant pour faire venir Tom Brady. Enfin, je suis désolé, mais...
J'allais dire, en vrai, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de franchises intéressées, en fait.
Faut quand même... À l'heure actuelle, ça reste un bon quarterback, il y a zéro souci là-dessus. Mais il faut beaucoup de choses pour que ça matche et pour que ça se passe bien. Tu vois, on parle des Titans et des Raiders, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les lignes offensives pour bien le protéger? Est-ce qu'ils ont les défenses, je pense aux Raiders, est-ce qu'ils ont les défenses pour soutenir l'attaque?
Bah c'est ça, et puis on a vu que la dernière fois qu'il a bougé, il était allé à Tampa parce qu'il y avait une équipe qui avait un effectif qui était
fait beaucoup d'efforts pour être prêt, quoi. Là, tu vois, moi tu me dis comme ça,
Tu vois, je regarde l'état de la ligue vite fait. Les Bills, ils ont un quarterback. Alors les Dolphins, c'est le propriétaire apparemment, il a essayé de magouiller
oui,
depuis 3 ans pour l'avoir.
C'est vrai.
On sait jamais, hein, les Dolphins.
Quitte à faire, autant aller jusqu'au bout, ouais.
Voilà, bon, Patriots, Jets, je plaisantais, je pense pas vraiment que ce soit l'ambiance. Bengals, Ravens, Steelers, Browns, voilà, a priori non. Jaguars non plus. Titans, on l'a dit. Bon, les Colts, après, quarterback vétéran qui...
C'est vrai. C'est vrai qu'Indianapolis, on n'est plus à ça près. Ouais.
Alors par contre, aller porter le même maillot que Peyton Manning, ça ferait bizarre. Hein.
Ouais, ouais.
Là, je... c'est un peu le même délire que LeBron James qui va aux Lakers porter le même maillot que Kobe. Moi, ça me... je m'en remets pas. Texan, bon, j'ai pas l'impression qu'il a envie d'aller là-bas.
Là, par contre, je comprendrais pas.
Là, ce serait le what the fuck ultime. Les Chiefs, Chargers, Raiders. Donc, Raiders, on a parlé. Broncos, ils ont Russell Wilson. Eagles, Cowboys, Giants. Les Commanders, mais c'est pareil, c'est une situation qui est pas incroyable, surtout j'ai pas envie. Alors ils vont être vendus, mais bon. Vikings, Lions, Packers, Bears, voilà. Après,
ouais,
bon,
non, je vois pas. Je sais pas non plus, ouais, tu vois, je sais pas, moi quand je vois sa saison, je.
Ou alors, ouais, les 49ers.
Oui.
Meilleure histoire, hein.
Ouais, ouais, ouais.
49ers, oui. Toute la mythique. Il a vu son premier match à Candlestick Park. C'était The Catch avec Joe Montana. C'est son idole.
T'imagines les 49ers qui, genre à l'intersaison, échangent Purdy et Lance, récupèrent stock de draft, prennent Brady en free agent. Et comme ça, ils ont 3 tours de draft en plus pour aller chercher
voilà,
du mec.
En plus, ils blindent.
Ils blindent. Ouais, ouais.
Non,
mais
vrai,
là, c'est all-in.
Si tu crois.
Tu fais ça, faut le.
Ou alors. Bah, tu sais, ou alors, tu crois vraiment en... Si tu crois vraiment en Brock Purdy, tu te dis, bon, on t'assoit sur le banc un an. Derrière Brady,
c'est dur, là, le mec, s'il fait les playoffs et tout, mettre sur le banc un an, c'est quand même dur. Hein.
Bah, ça dépend s'il se gaufre là, tu vois, au prochain tour.
Ouais, faut qu'il se gaufre beaucoup, quand même. Je sais pas, je... Dur.
Ah, moi, je me dis, s'il se vautre vraiment beaucoup, tu fais ce que t'as dit, t'échanges Trey Lance, tu gardes Purdy en backup, et puis tu fais all-in sur un an avec Tom Brady. Je pense que le gars, tu peux lui faire comprendre. Tu lui dis, t'as 24 ans, le type, il en a 46. Bon, après, en même temps, des mecs qui ont moisi sur un banc derrière Brady, il y en a un paquet.
Ouais, c'est ça, je sais pas si.
Je suis pas sûr qu'il soit heureux. Non, mais il va partir, promis, hein. Promis. Tu sais, là, il y a Brian Hoyer qui va surgir, qui va dire, non, on me l'a dit aussi. Mais d'ailleurs, il y a Garoppolo qui pourra lui dire.
Ouais, c'est vrai.
Il y a Garoppolo qui pourra témoigner, donc qui devait être l'héritier aussi. Bon, en tout cas, bon, alors pronostic quand même. Finissons l'émission comme ça. Prono, est-ce qu'il reste et si oui, où il va?
Oh là là. Ouais. Allez, je vais prendre le risque, il part.
Il arrête tout?
Ouais, je prends le risque.
Et bah, c'est ce que j'allais dire aussi. Je pense, tu sais quoi, en fait, ça va être au moment où c'est le plus surprenant finalement. Je me dis, il va peut-être arrêter. Maintenant qu'on croit qu'il va tous continuer.
Ouais, ouais.
Peut-être qu'il va arrêter. Puis il faut rappeler hein, qu'il a cet énorme contrat télé, je ne me rappelle plus du montant, mais il est déjà signé par la Fox pour je ne sais plus combien, c'est en centaines de millions de dollars hein, sur 10 ans, je crois, pour être consultant. Donc, il n'est peut-être pas fou aussi, tu vois, on a dit là, qu'il avait eu du mal, etc. Est-ce qu'il va vraiment avoir envie de revenir dans une situation qui ne sera pas idéale, en sachant qu'il n'est peut-être pas au même niveau? Tu vois, je suis pas sûr qu'il a envie de s'infliger ça non plus, quoi. Donc bon, en tout cas, ce sera un des suspenses, évidemment, de l'intersaison. C'est ça qui va. Ça va alimenter le site et tout ça. Reviens, ça nous fait des émissions, des pages vues, tout ça. N'hésite pas, toi. Tu peux le faire plusieurs fois.
C'est vrai qu'on a quand même un podcast retraite.
On fera une rediff, du coup Parce que là, l'année, elle change pas grand-chose.
Non, elle change pas énorme. Non, oui, on pourra sans doute le. Ouais.
Franchement, on va pas s'emmerder à refaire une émission.
Non.
Pour l'article aussi retraite, je vais voir si je peux copier-coller une partie, tu vois, genre toute la partie historique que tu mets à la fin de l'article à chaque fois, genre Brady est arrivé à telle époque, il a fait ceci, tu mets juste une petite actualisation, on va faire comme une fiche Wikipédia. Mais ouais, non, on est comme une rédaction qui a déjà toutes ses nécros, tu sais.
C'est ça.
On a la nécrologie sportive de Tom Brady qui est au frigo, et puis il n'y a plus qu'à la sortir. Mais non, mais après, faut pas qu'il hésite. Nous, on a fait un très bon mois de mars l'an dernier hein, sur le site, donc il peut revenir autant de fois qu'il veut. Bon, c'est comme ça qu'on termine l'épisode numéro 575, pardon, du podcast Jean Actu. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, des évaluations, tout ça sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui l'ont fait cette semaine: Samy, Mélanie, Guillaume Priol, Krolos et Antoine. On a envoyé toutes les contreparties. Les calendriers sont de retour, notamment sur Tipeee, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier et TikTok @TDActu. Les réseaux sociaux perso @Raphaël_TDA pour Raphaël, @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On se retrouve demain pour la preview du Divisional avec Victor Goulier. On parlera des 4 matchs du week-end, évidemment, avec des très belles affiches. La draft, ah oui, le podcast draft de vendredi, j'ai vu le titre, j'ai pas encore entendu le contenu, mais c'est qui est le prochain Brock Purdy. Et ça, ça j'aime bien, c'est vendeur. C'est vendeur. Je l'ai déjà dit à l'antenne, je les pousse à avoir des titres un peu vendeurs, là je suis aux anges. Donc j'ai envie de, je vais écouter ça. Et puis, donc je vous fais la promo de tout, parce que l'émission rétro elle est déjà uploadée aussi, je l'ai écoutée aujourd'hui. C'était marrant, on disait que Peyton Manning était cramé, et finalement c'est un an avant qu'il gagne son dernier titre. Donc c'est, ouais. C'est la, en fait je pensais à Dallas, tu sais, en playoff. Mm. Et donc en fait c'est l'émission du Dez Bryant l'a-t-il attrapé.
Oui,
je suis allé chercher ça. Divisional aussi hein. Le, je me demande si ça doit pas être le dernier divisional d'ailleurs de Dallas.
C'est possible.
Ouais, hein.
C'est carrément possible, ouais. Ouais, ouais.
Mais en tout cas, c'est avec Tony Romo à l'époque. Donc, et Dez Bryant l'a-t-il attrapé la réponse dans le podcast. Et on parlait, ouais, il y avait Andrew Luck en finale de conf contre les Patriots. Russell Wilson qui brille. On est là, genre, oh, Wilson, il est incroyable, il est injouable. Et c'est trop marrant parce que ça fait vraiment un décalage. Donc voilà, je vous invite à écouter cette émission rétro. Ce sera samedi matin, comme tous les samedis de cette saison en ligne, le rétro. Et puis dimanche, dans le fauteuil, on décernera les trophées de la saison. Je vous ai j'ai déjà tout le programme hein. On décernera les trophées de la saison et ce sera notamment avec les votes, donc n'hésitez pas à vous connecter. Le fauteuil cette semaine il est à 19h30 puisque le match de jeudi est à 21h, donc on fait 1h30 avant les matchs, donc 19h30 sur twitch.tv/tdactu. Merci beaucoup Raphaël,
merci à toi,
à très bientôt sur les ondes de TDA, ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.